RCF. Et le journal du matin, c'est avec Thomas Dulin qui m'a pas copié-collé ses titres. Bonjour Thomas.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Et d'abord, le bilan continue de s'alourdir dans le centre de l'Ukraine après un nouveau bombardement russe. Un centre commercial de Kremenchuk pris pour cible. Au moins 16 personnes ont perdu la vie. Les pays du G7 réunis en Allemagne dénoncent un crime de guerre. C'est dans ce contexte que débute ce mardi à Madrid le sommet de l'OTAN. Au-delà du conflit ukrainien, la question de l'adhésion de la Suède et de la Finlande sera au menu. L'Assemblée nationale élit ce mardi son nouveau président, qui pourrait d'ailleurs être une présidente, un rôle particulièrement complexe dans ce contexte. Contexte politique mouvementé. Et puis quel avenir pour les membres du Verbe de Vie dans la Marne? La communauté va être dissoute en raison de graves dysfonctionnements. On y revient en fin d'édition. Un immense panache de fumée, des flammes rougeoyantes et un bâtiment en ruine. Les impressionnantes images venues d'Ukraine viennent rappeler avec brutalité l'horreur de la guerre en cours. La ville de Kremenchuk, située à 300 km au sud-est de Kiev et jusque-là épargnée par les bombardements, a donc été visée hier par un missile russe, Clara Gabillet.
Oui, une frappe qui a touché en plein jour un centre commercial où des centaines d'Ukrainiens étaient en train de faire leurs achats. Le bilan provisoire fait état de 16 morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans la foulée, un autre missile a visé un point de distribution d'eau dans l'est du pays. Au moins 8 civils auraient été tués d'après Kiev. De nouveaux bombardements qui ont entraîné une réaction unanime de la communauté internationale. Le chef de l'État Emmanuel Macron dénonce une horreur absolue et appelle le peuple russe à voir la vérité en face. Les pays du G7 réunis hier en Allemagne parlent de leur côté d'un crime de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est même allé jusqu'à dénoncer, je cite, l'un des actes les plus éhontés de l'histoire européenne. Il a réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiendra aujourd'hui.
Les précisions de Clara Gabillet, et à noter que Vladimir Poutine effectue ce mardi son premier déplacement à l'international depuis le début de la guerre. Le chef du Kremlin se rend au Tadjikistan, pays allié de la Russie, avant d'aller demain au Turkménistan.
Dans ce contexte, la longue séquence internationale se poursuit.
Et oui, après le Conseil européen en fin de semaine dernière, le sommet du G7 s'est achevé hier. Les dirigeants des cette puissance ont promis de durcir les sanctions contre l'économie russe et continuer de financer l'aide à l'Ukraine. Et puis à partir d'aujourd'hui, les pays membres de l'OTAN se réunissent à Madrid. La guerre en Ukraine, qui a en quelque sorte ressuscité l'Alliance Atlantique, sera une nouvelle fois au cœur des discussions, Jean-Baptiste Labeur.
Les 30 dirigeants de l'OTAN vont décider notamment de transformer leurs forces de réaction rapide. Selon le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, il s'agit de la porter bien au-dessus des 300 000 soldats pour faire face à la menace russe. L'OTAN veut également renforcer ses capacités en cas de conflit avec plus d'équipements prépositionnés, de capacités déployées à l'avant comme la défense aérienne et des forces préaffectées à la défense de certains alliés. Une façon de répondre aux critiques de l'Estonie qui jugeait ces derniers jours insuffisantes les plans de défense des pays baltes, alors que des tensions sont aussi apparues autour de l'enclave russe de Kaliningrad coincée entre la Pologne et la Lituanie. Enfin, autre sujet au menu de ce sommet, l'adhésion de la Suède et de la Finlande. La Turquie bloque toujours, mais le président Erdogan doit s'entretenir aujourd'hui avec ses homologues nordiques.
Jean-Baptiste Labeur, retour en France et la ministre de la Santé demande aux Français de remettre le masque dans les transports. Pas d'obligation pour le moment, mais Brigitte Bourguignon appelle à un geste citoyen pour tenter de contrer la reprise épidémique du Covid. Environ 70 000 nouveaux cas positifs quotidiens ces derniers jours, en hausse de plus de 50% par rapport à la semaine précédente. Et dans ce contexte, la première ministre Elisabeth Borne organise ce mardi une réunion avec les préfets et les directeurs des agences régionales de santé.
Et ce mardi, Thomas, c'est aussi la rentrée pour les députés de la nouvelle Assemblée nationale.
Et oui, première séance cet après-midi à partir de 15h qui donnera le coup d'envoi de la nouvelle législature. Au programme notamment, l'élection du nouveau président de l'Assemblée qui pourrait être une présidente, ce serait une première. Yaël Braun-Pivet, tout juste démise de ses fonctions de ministre des Outre-mer, fait figure de favorite puisqu'elle est la candidate de la majorité présidentielle qui possède le plus de sièges. Elle sera opposée lors du vote à Annie Genevard chez les Républicains. Sébastien Chenu du Rassemblement National, l'union de la gauche, doit désigner son poulain ce matin. La présidence de l'Assemblée, un poste clé pour mener les débats, est d'autant plus complexe cette année face à un hémicycle très hétérogène. François de Rugy est ancien ministre, il a présidé l'Assemblée de 2017 à 2018.
C'est beaucoup plus difficile évidemment à présider. Après, il y a des règles et donc le rôle du président de l'Assemblée nationale, c'est de faire respecter ces règles et ce sera d'ailleurs la meilleure façon de faire fonctionner l'Assemblée malgré cet éclatement, malgré ces contestations permanentes, de rappeler les règles, de rappeler qu'elles sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est cela qui permettra, in fine, quand même, d'avoir des débats qui débouchent sur l'adoption de textes, de lois ou de budgets. Il va surtout, je pense, falloir faire preuve de davantage de travail, de préparation en amont de l'ordre du jour. Là, comme il n'y a pas de majorité absolue pour les trois groupes de la majorité présidentielle, eh bien, il va falloir discuter davantage en amont, sans rechercher non plus le consensus.
Et après la présidence de l'Assemblée nationale, le bureau de l'hémicycle doit être nommé demain avant l'élection des présidents de commission jeudi. On parlera de tous ces postes clés au sein de l'hémicycle dans le dossier de la rédaction tout à l'heure à partir de 7h12. Le ministre des Solidarités porte plainte pour dénonciation calomnieuse. La riposte de Damien Abad visée par une nouvelle plainte pour tentative de viol, la troisième en quelques semaines. Les deux premières déjà classées sans suite. La plaignante, une ancienne membre de la Fédération des jeunes centristes, dénonce des faits qui se seraient produits en 2010 lors d'une soirée chez Damien Abad. Au procès des attentats du 13 novembre, le verdict sera rendu demain. Avant cela, les magistrats se sont mis à l'écart pour délibérer dans un lieu tenu secret, une caserne militaire sécurisée en région parisienne. Hier et pour la dernière fois, les 14 accusés présents ont pris la parole. Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos terroristes, a tenté de se défendre. « Je ne suis pas un assassin, me condamner pour assassinat serait une erreur », a-t-il déclaré. Il encourt la réclusion criminel à perpétuité incompressible.
6h37 sur RCF, on revient ce matin sur cette tribune des géants de l'énergie qui appellent les Français à limiter leur consommation.
Et oui, avant-hier, les dirigeants de Total Energy, EDF et Engie demandaient à leurs clients de faire dès maintenant des économies d'énergie pour éviter des pénuries et des fortes hausses de prix l'hiver prochain. Alors une question très simple ce matin, cette solution peut-elle être efficace? Eh bien écoutez l'analyse de Jacques Percebois, économiste spécialiste du marché de l'énergie.
C'est de la prévention. En plus, on est en été, donc il n'y a pas, je dirais, de pénurie physique attendue en été. Simplement, il faut commencer à habituer les consommateurs à faire attention. Et donc, c'est de la prévention. C'est tirer la sonnette d'alarme. Il faudra probablement refaire de la prévention, parce qu'il ne suffit pas de le dire une fois. L'expérience montre que ça marche. Hein. Quand il y a eu, il y a quelques semaines, des difficultés, un jour donné, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, avait dit aux Français, essayez d'économiser un peu. Bon, l'appel avait été entendu, on avait, je crois, réussi à diminuer de 600 à 700 mégawatts la demande d'électricité, ce qui est une petite centrale nucléaire, et donc c'est pas négligeable. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel d'efficacité énergétique, absolument.
Jacques Percebois, professeur émérite à l'université de Montpellier. Dans le dossier du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, l'État condamné par le tribunal administratif de Paris pour négligence fautive. La justice a en revanche rejeté les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété. Pourtant interdit en 1990, le pesticide a été utilisé jusqu'en 1993 sur les champs de bananes, provoquant une pollution importante et durable sur les deux îles.
L'Église catholique française sous le coup de visites canoniques en série.
Et oui, après la suspension des ordinations à Toulon, l'annonce d'une visite apostolique à Strasbourg, une communauté nouvelle est sur le point d'être dissoute. Il s'agit de la communauté du Verbe de Vie basée à l'abbaye d'Andecy dans la Marne. De graves dysfonctionnements ont été relevés après un audit au début de l'année. Abus spirituels, abus de pouvoir, mais aussi abus sexuels. La communauté n'existera donc plus à compter du 1er juillet 2023. D'ici là, elle sera administrée par Monseigneur François Touvet, l'évêque de Châlons-en-Champagne, qui aura notamment la mission d'accompagner la quarantaine de membres du Verbe de Vie.
Aider des frères et sœurs qui sont en difficulté et qui ont été en quelque sorte, parce qu'ils ont un cœur formidable, ce sont des personnes qui, chacune prise individuellement, rayonnent de cette joie de l'Évangile et de la foi de l'Église et du sens missionnaire, mais elles ont été en quelque sorte piégées par un système qui les a enfermées et qui les a détournées de leur vocation initiale. Je vais vraiment, tout en conduisant mon diocèse aussi de Châlons, les accompagner les uns les autres sur ce chemin de renouveau, en quelque sorte, une nouvelle orientation. Et les abus sont très divers, donc nous allons voir comment accompagner effectivement chacun et chacune. S'il doit y avoir une forme de reconnaissance avec une démarche financière, eh bien il faudra voir ce qui est possible de faire.
Monseigneur François Touvet, l'évêque de Châlons en Champagne. On reviendra plus en longueur sur cette dissolution de la communauté du Verbe de vie tout à l'heure dans l'actu chrétienne à partir de 7h24. On termine avec un mot de sport. C'est une immense déception pour tous les fans de cyclisme. Le double champion du monde Julian Alaphilippe ne participera pas au Tour de France. Le coureur de la Quick-Step, chouchou du public français, n'est pas suffisamment remis de sa grave blessure lors de la course Liège-Bastogne-Liège. C'était il y a 2 mois. La grande boucle débute ce vendredi pour 3 semaines de course au départ, Simon.
De Copenhague.
Exactement.
Merci
on
beaucoup.
On le répète pour ceux qui n'étaient pas attentifs hier.
Merci beaucoup Thomas Dulan. On se retrouve à 7h30 Thomas.
À tout à l'heure Simon.
À tout à l'heure.